Jules Janin, Contes fantastiques et littéraires. L'échelle de soie. Vous ne sauriez croire, ami Francis, me dit-il, tout ce qu'il y a de charme et d'innocence dans un bain de femme turque. Ignorant comme vous l'êtes, vous n'avez tort d'en parler si légèrement. À ces mots, le vieux général reprit son brûle-gueule. Il s'enfonça dans son fauteuil, il croisa les jambes et retomba dans cette rêverie éveillée qui fait le charme du tabac de la Havane, opium bâtard de nous autres orientaux de Paris ou de Saint-Cloud. La conversation finit là. Je me levai. À l'autre extrémité du salon, je fis saluer la fille du général Fanny, jolie et rieuse personne, qui, sous ce masque de fumée, paraissait aussi brillante qu'une belle gravure de Wilkie dans un verre sans défaut. C'est un charmant contraste, le vieillard qui se fait poète dans une odorante fumée, et une jeune fille qui respire et qui chante à travers le nuage. Vous la voyez comme une apparition de la décence. À peine vous distinguez son visage, elle n'a plus de souffle, on dirait une sylphide qui s'est trompée d'élément. Moi, j'étais trop accoutumé à voir Fanny avec son père pour faire toutes ces belles réflexions. Je fus donc m'asseoir près d'elle, et bien plus près que je n'aurais osé le faire sans la fumée qui comblait les distances. Cette atmosphère ondoyante est si favorable à l'amour. Il y a des moments où vous êtes seul entre des nuages, vous rêvez à vos amours. Et tout à coup, le nuage s'entr'ouvre et vous voilà au sommet de ces Alpes fantastiques, à côté de la belle Fanny, enveloppée du même voile, isolée avec elle du monde extérieur, à vos pieds les mêmes orages, le même calme sur vos têtes. Alors la belle sourit avec plus d'abandon, vous la regardez avec plus d'audace, plus de nuages et pas de remparts. À la fin, vous la retombez, elle et vous, dans le salon confumé, au milieu des guerriers de l'Empire qui décorent la muraille. Vous entendez sonner 10 heures, le signal du départ. C'est à peine si vous avez le temps de reculer votre siège de celui de Fanny. Votre pipe est-elle déjà vide, général ? Le général avait sa tête penchée. Son fourneau tout noirci reposait à terre à côté de son chien. À voir cette large machine entourée encore de légères vapeurs, on lui prise pour l'Etna. Quand il se repose enfin, lassé de jeter sa lave et sa fumée. Après 2 minutes, le général répondit à ma question. « Oh, c'est assez fumé pour ce soir, monsieur Théodore. » « Je ne suis plus ce que j'étais. Oh, j'ai vu le temps où je serais resté 3 nuits et 3 jours à jeter en l'air plus de fumée que l'on pourrait faire en 1 an tout un corps de garde de soldats citoyens. » C'était de grands et vifs plaisirs. Tout nous manquait, l'habit sur notre corps, la chaussure à nos pieds, le pain, le vin, la paille. Heureusement, le tabac nous soutenait. Le tabac, beau rêve. Il y avait à l'armée d'Égypte des hommes qui avaient le cœur de faire des vers français devant les pyramides. Un d'entre eux a osé faire un poème épique au milieu du désert. Moi, j'ai fumé aux pyramides, j'ai fumé partout et toujours. La première fois que je vis ta mère, ma chère Fanny, elle recula de 3 pas. J'avais les lèvres enflées à force de voir passer à ta mère. Elle était si douce et si jolie. Elle aimait avec transport les fleurs, les odeurs suaves, le linge brodé et odorant. Son œil était si pur, sa joue était si blanche. Eh bien, ma chère enfant, je vais apprivoiser ta mère. Que de fois elle a posé sa lèvre élégante et fraîche sur mes lèvres brûlées par le tabac. Que de fois elle a chargé ma pipe de sa main charmante. As-tu vu le cerf de Franconi, ma fille? Quand le cerf avait tiré son coup de fusil, il respirait l'odeur de la poudre. Ainsi était ta mère. J'allais à elle, je lui tendais ma pipe en faisant les gros yeux. Ta mère arrivait à petits pas, elle tendait son joli nez sur ma pipe, chaude encore. Et Dieu sait qu'elle se sauvait en éternuant, la peureuse. Rentrée chez elle, elle déroulait ses cheveux, elle changeait de robe et de mouchoir. Toute l'eau de Portugal y passait. Disant ces mots, l'œil du bon général était humide. Vous avez vu cela, souvent, une larme qui roule dans un œil vif encore et qui reste suspendue à de gros cils, et la joue honteuse de se sentir humide. Fanny, entendant parler de sa mère, jeta ses deux bras au cou de son père et elle appuya sa tête blonde sur la poitrine du vieillard. Ce fut alors seulement que cette larme, après avoir coulé sur le visage du général, rejaillit sur le visage de son joli enfant. Oh, le bon père se sentit soulagé. « Bonsoir, dit-il, bonsoir, ma fille, bonsoir, mon bon garçon. Voilà une femme, elle a la grâce et la beauté de sa mère. Elle ne craint pas plus le tabac et la fumée que moi, son père. Aussi, je l'ai élevée au gré de mon cœur. » Quand elle vint au monde et que sa mère me la donna d'une main tremblante, il y avait 8 nuits et 8 jours que je l'avais fumée. J'étais défait et livide. J'avais prié le bon Dieu, tremblant comme un moine espagnol qui abjure. Et quand j'eus mon enfant, je repris ma fumée et je couchai ma fille en son petit berceau voyageur. Nous étions en Espagne alors, oh le beau pays! J'envoyais chercher une nourrice en Alouse, une nourrice comme pour un empereur. Elle arriva, la nourrice, grosse, mère, rebondie, œil noir, cheveux noirs, visage idem, mais tout le reste était très blanc. Je la vois encore, elle tenait à la bouche un long cigaretto qui lui avait donné quelques muletiers en passant sur la route. « Tenez, Maria, prenez cet enfant. Bien, nourrice, garde ton cigare, j'ai pas peur de la fumée, commère. Ma femme non plus. » Et ma fille se jeta sur le sein de la nourrice, et comme je m'approchais pour voir comment elle allait s'y prendre, « Halte là ! » La nourrice l'enveloppa dans un nuage, et moi je me fis apporter ma pipe et je ne quittais plus la nourrice. Je fumais avec elle aussi bien que j'aurais fumé avec un capitaine de dragon. Aussi vous comprenez quel plaisir c'est pour moi de savoir que ma fille aime son père et le plaisir de son père. Quel bonheur de pouvoir entrer partout chez soi sans avoir à redouter certaines limites. Aussi bien, je te promets, un mari qui sera fumé comme ton père, mon enfant. C'est le moyen de n'avoir ni un débauché, ni un joueur, ni un faiseur d'esprit, ni un moqueur, ni un oisif, mais un brave homme, aimant sa maison, sa femme et son feu. C'est moi qui te le promets, Fanny. Tu ne voudras jamais qu'un fumeur. J'avais pris machinalement la pipe du général. Et l'entendant parler avec tant de véhémence, j'avais approché le tuyau de ma bouche et j'étais dans l'attitude d'un homme qui médite ou qui fume, quand le général, me regardant avec la plus profonde pitié, « Pauvre espèce, et quelle triste génération! Mais allez donc en Égypte ou prenez Moscou avec des gaillards de ce calibre !» À ton âge, morbleu, j'étais un homme de fer. Les femmes, le froid, le chaud, la bataille, le sommeil, le plaisir, rien n'y faisait. Je n'aurais pas reculé d'un pas devant un excès quel qu'il fût. C'est qu'alors nous avions des âmes d'une haute trempe. Et vous autres, tout au rebours, vous êtes une race molle et blafarde, pitoyable à voir. C'est une grande misère, ces jambes grêles, ses mains mignonnes, ses poitrines rétrécies, ses visages pâles, ses cheveux bouclés, cette barbe qui serpente au hasard, ses voix flûtées. Et dire que tout cela s'appelle un homme morbleu. Mais un homme aujourd'hui, sais-tu ce que c'est? C'est quelque chose qui sait le latin, qui lit des journaux, qui déclame des vers, qui se lève à 8 heures, qui se couche à 11, qui boit de l'eau et fume des cigarettes en papier. Vos hommes portent des grands jaunes. Ils ont des habits étroits, ils affectent de montrer leurs dents et leurs gencives. Ils ont un lorgnon à leur cou, parce qu'ils n'y voient pas. Ils parlent beaucoup et toujours. Et surtout, ils parlent de préférence des choses qu'ils ignorent et des pays qu'ils n'ont pas vus, de l'Espagne, de l'Alhambra, de l'Orient, où ils ne sont jamais allés, et des bains turcs, dont il leur est aucune espèce d'idée, même quand ils seraient allés en Orient. « Général, lui dis-je, vous revenez aux bains turcs par un long détour. Il serait plus charitable de me dire tout de suite l'histoire que vous avez envie de me conter à ce sujet. » « laissez ma pipe, monsieur !» me cria le général, sans répondre à ma réponse. « Veux-tu bien laisser ma pipe, toute muette qu'elle est et toute vide ? Il y a encore assez de feu dans ses cendres, assez d'âme en ce corps éteint, pour vous jeter ivre-mort sur ce tapis jusqu'à demain. Or, soit le bonsoir, mon doux enfant, bonsoir, ma fille !» Et il embrassa son joli enfant, et la jeune fille se retira en me disant, à moi aussi, « Bonsoir !» Le général la suivit des yeux, la porte du salon se referma, et je croyais voir encore la charmante apparition. Quand il fut dit que nous ne la reverrions plus que le lendemain, nous fûmes d'une grande tristesse, son père et moi. Il se rejeta dans son fauteuil de très mauvaise humeur, et moi, regardant la pendule, tout à l'heure si rapide et si lente à présent, je pensais avec un soupir qu'il fallait que cette aiguille fît le tour du cadran avant de vous revoir, ma chère Fanny. Il y eut entre le général et moi un silence qui dura plus d'un quart d'heure, et muets tous les deux, nous eûmes une de ces longues conversations qui viennent du cœur, si pleines de choses et de tendresse et de serments d'amitié, une conversation du sixième sens, entre un vieillard indulgent et un jeune homme honnête qui se donne, sans le savoir, lui un fils de plus et lui un second père. C'est ainsi que, peu à peu, nous fûmes consolés, pensant tous les deux au lendemain. Quand nous eûmes bien épanché notre cœur dans ce silence, et quand tous nos secrets intimes, de lui à moi, de moi à lui, furent épuisés, la conversation reprit son cours. « Fais le thé, me dit-il, charge ma pipe, ranime le feu, et buvons du thé, puisqu'aussi bien... « Pauvre monsieur, le rhum vous monte au cerveau comme le tabac. Trop heureux encore si monsieur peut dormir quand il aura 2 ou 3 tasses de thé vert dans le cerveau. » Il se brida à sourire. Je découvris la théière, je chargeai la pipe, le tabac et le thé jetèrent leur arôme. Le général se retourna pour regarder le portrait de sa fille. De sa fille, son regard se porta sur moi, sur le thé, sur sa pipe. Il avait dans cet instant la physionomie heureuse d'un homme heureux. « Quand je suis avec toi, me dit-il, une chose me chagrine et me gêne étrangement. Oh, je suis mal à l'aise avec vous, autres jeunes gens, d'une époque où tout est gêne et souffrance. Oh, vous êtes trop sage pour un vieux comme moi. Je n'oserais pas parler plus librement devant vous que je parlerai devant ma fille. Mais enfin, vous n'avez pas vu le directoire. Vous n'avez pas assisté à ce moment de plaisir solennel quand toute la France, enfin délivrée de l'échafaud, se ruait dans toutes les jouissances de la vie et de la jeunesse, à la façon d'un écolier échappé aux étrivières du pédagogue. Les guerres d'Italie, le général Bonaparte et l'Égypte marchèrent à ce réveil délirant. Ai-je le bonheur de faire partie de l'Europe active? Je fus soldat à la suite du grand homme. Et quant au scandale du directoire, ouf, je ne fis que les entrevoir. Ce bonhomme je m'en souviens encore, et quand ma fille dort entre ses rideaux blancs, j'aime à parler de tout cela avec toi, mon enfant. Général, répondis-je, il me semble que vous calomniez bien fort la génération présente. Tant s'en faut qu'elle soit aussi chaste que vous l'imaginez. Elle est née en toute hâte, elle a le sentiment des grandes passions, elle n'en a pas la force. Il n'y a plus de Lauzun, il n'y a plus de Cambronne, il y a des rêveurs qui lisent les méditations poétiques. C'est notre petite santé qui fait nos grandes vertus, mon général. Mais de grâce, ne dites à personne, et surtout n'en parlez pas à votre enfant qui dort. Et maintenant, à présent qu'il est 11 heures, que votre pipe est brillante comme une étoile, que le thé est versé pour nous deux, si vous me racontiez votre scène dans les bains des femmes turques, faisons cette débauche à nous deux, le voulez-vous ? Oh, reprit celui-ci, ceci est une belle histoire, et je vais te la conter, aussi bien depuis 7 heures du soir, je suis fatigué de vous entendre parler de l'Orient comme vous faites. Je suis las de vos vers, de vos descriptions, de vos contes, de vos grands livres à gravure sur l'Égypte. Moi qui ai vu et touché l'Égypte. À la fin, il commença brusquement ce récit si longtemps attendu. J'étais à bord de l'Orient avec le général Bonaparte. Nous allions en Égypte, lui et moi, lui général, moi soldat. Nous sommes entrés à Malte ensemble. Nous avons débarqué ensemble dans la même chaloupe, suspendue à la même corde sur le rivage. Il me tendit la main à moi, soldat. Il a tendu ainsi sa main à 10 armées. Puis nous avons pris tous les deux l'Alexandrie d'Alexandre le Grand. Il fallut aller au Caire, traverser le désert et les Arabes. Point de verdure, point d'eau, des puits comblés et le mirage qui faisait de tous ces sables autant de lacs argentés sous un ciel de France. C'était beaucoup souffrir. Et bientôt nous passâmes devant les pyramides. Tout seul, De Seix passa sans lever son chapeau à tous ces siècles qui nous saluaient de ces hauteurs. J'étais à l'avant-garde et j'entrais au Caire, un des premiers. Nous avions eu tant de chagrin, de malheur et de peine pour arriver jusque-là. Nous avions eu soif si cruellement et si souvent. Et je dis à quelques-uns de nos compagnons, « Mettez-nous quelque peu sur une hauteur pour nous reposer et voir entrer le général en chef. » Justement, à l'entrée de la ville, il y avait un petit bâtiment sombre et sans grâce. Au sommet de la maison, sur le toit, s'étendait une terrasse au grand air qu'abritait la muraille d'un palais. Sur cette terrasse, nous fûmes nous placer, mes amis et moi. Il y avait 6 jours que nous n'avions pas été à l'ombre, 6 jours que nous n'avions eu un moment de repos. Que cette halte était belle, et nous, 5, sur un des toits de la ville conquise, étions-nous haletants et curieux. Au loin, tout brissait et tout frissonnait. Le bruit d'une armée en marche est plus formidable que le tonnerre. Entendez-vous les premiers pas des soldats républicains et le pas du général qui battait plus haut à lui tout seul que tous les autres réunis? Le tambour et la trompette, le coq gaulois aux ailes déployées qui nage dans les 3 couleurs, l'arc-en-ciel triomphal, bravo! Nous vîmes entrer tous ces travaux, tous ces dangers, tous ces Français, tout ce général. Il nous semblait, du haut de ce toit propice, que nous nous voyions passer. En présence de cette gloire, nous nous levâmes, pénétrés de respect, et comme nous avions oublié d'être chrétiens, nous criâmes en vrai croyant, « Dieu est grand !» Il y a des heures où la religion est un besoin. C'était la première fois depuis mon départ que je m'avisais de croire en Dieu. Au moment où nous nous levions tous les cinq, battant des pieds et des mains et criant « Dieu est grand !» Le toit fragile vient à s'enfoncer mollement sous le faîte. Étonnés et ne sachant pas ce que nous devions craindre, nous nous sentîmes descendre au milieu d'une vapeur odorante, chaude vapeur pleine de volupté et de repos, et un instant nous crûmes au paradis de Mahomet. Vous autres de la génération nouvelle, si vous aviez cette histoire à raconter, vous seriez une heure à décrire ce bain turc, à examiner ces femmes turques presque nues. Vous diriez la blancheur de leur peau, la beauté de leurs lèvres, la petitesse de leurs pieds, la finesse de leur taille, la couleur de leurs prunelles, et la longueur de leurs cheveux, éternel descripteur que vous êtes. Malheur à la description, elle a tué l'intérêt du récit et du voyage. La description, c'est votre maladie à vous autres. Vous ne sentez rien en bloc. Qu'un de vous entre au sérail de toutes ses beautés, mais le maladroit n'en verra qu'une seule, détruisant ainsi l'effet de cet accident heureux. Nous, au contraire, nous étions cinq au milieu de 20 femmes effrayées, 5 Français dont un Corse qui devenait plus français chaque jour à mesure que Bonaparte gagnait une victoire. Tous les 5, tomber au milieu de 20 baigneuses, oh, oh, quel bonheur d'échapper un instant au bruit, au soleil, à la poussière, à la gloire de la ville. Quel bonheur de voir enfin l'Orient dans ses mystères. Pas un de nous ne se mit à réfléchir, à décrire, et notre premier soin fut de rassurer du geste et du regard ces odalisques muettes. Bientôt nous fûmes à l'aise, comme dans un salon français, tout rempli de femmes habillées à la grecque. Ce lieu était silencieux, caché, rempli d'une molle vapeur. L'eau froide et l'eau chaude coulaient au milieu, et les mains grêles des baigneuses jetaient cette eau sur leur beau corps, chacune d'elles se jouant avec le miroir transparent. Puis c'était de petits cris de joie et des cris effarés, des mouvements de curiosité haletante, des rivalités charmantes. Elles étaient là, ces 20 princesses, ces reines de beauté, qui avaient quitté le harem pour le bain. Elles étaient là, dans leur moment de liberté, espérant beaucoup de la guerre et de la conquête, et répétant en toute espérance le nom sauveur de Bonaparte, qu'elles savaient par cœur. Le nom de Bonaparte était déjà un nom si grand que les muets eux-mêmes l'auraient tous répété au besoin. Alors nous fîmes à notre tour nos ablutions au bord du ruisseau d'eau tiède. Nos compagnes, en riant, nous couvrirent d'essence de rose. Elles démêlèrent nos cheveux, elles blanchirent nos visages, elles nous offraient le sorbet dans des coupes de cristal. Elle murmurait doucement dans nos oreilles. Elle s'étonnait de nous voir si polis et si doux, leur souriant avec tendresse et leur baisant respectueusement les mains. Cependant, au dehors, nous entendions retentir les tambours français et nous vidions nos coupes à la santé de nos frères d'armes, plus glorieux et moins heureux que nous. Je n'ai jamais été plus content de ma vie. En Espagne, il est vrai, je me suis hébergé dans des couvents de moines, tout ruisselant des vins de Malaga et de Porto. Je suis descendu en Italie, au milieu de la vapeur des roses, après avoir traversé les Alpes chargées de neige, en revenant de Moscou, mort de misère, en haillons, et les pieds nus. Je fus accueilli par une comtesse polonaise de 18 ans, qui me mit dans son lit de batiste et de velours, comme elle eût traité son propre fils, la chère femme. Eh bien, jamais, dans cette joie extrême qui succède à l'extrême douleur, dans cette extrême abondance qui remplace une horrible disette, je n'ai éprouvé ce que j'ai éprouvé dans mon bain du Caire. Au milieu de mon sérail à moi, le sultan à 3 chevrons, témoin de leur coquetterie, de leur abandon charmant, il me semblait que je prenais ma revanche de toutes mes fatigues, de toutes mes privations, depuis que j'avais quitté la France. À la fin, j'avais trouvé cet Orient après lequel nous courions tous. Je les avais trouvés, ces houris qui nous agitaient dans nos rêves, sous les tentes du camp. Le premier, j'avais mis vraiment le pied sur cette terre de féerie. César, ouvre-toi. En ce moment, nous étions pur et mollement les vainqueurs du Caire que ne l'était Bonaparte et le reste de l'armée. Et voilà pourquoi, si vieux que je suis, je te rappelle tout cela en détail. Quand les femmes turques sont au bain, pas un homme, quel qu'il soit, n'a le droit de les troubler. Les nôtres restèrent longtemps au bain ce jour-là, mais enfin, il fallut se séparer. Pour leur dire adieu, nous leur donnâmes à toutes un nom. Adieu, Louise. Adieu, Victoire. Adieu, Fanchette. Adieu, Marnon. Adieu toutes. Adieu les belles. Adieu les houris. Adieu mes amours. Adieu, Fanny. Oh, quand je dis Fanny, je me trompe. C'est le nom de ma fille. C'est un nom que je ne donnerai pas pour le bâton d'un maréchal à la femme du grand Turc. Mais adieu Clarisse, Agathe, adieu, adieu Zoé. Nous réunîmes en bloc tous les noms de nos premières amours, et ces noms de Paris, ces noms de nos soirées de fête, ces noms de nos théâtres ouverts de nouveau, ces noms de nos couvents détruits, ces noms français, ces noms en robes grecques et romaines, aux pieds nus et chargés de diamants, nous les fîmes retentir dans ces bains des puits et des péris qui les prit pour les noms les plus voluptueux de l'Orient. Nos adieux furent longs. Quel sourire, que de larmes, que de belles mains tendues vers nous. Déjà battait la retraite du soir. Déjà les sons de la Dagnane nous rappelaient à la garde du camp. Hélas, hélas, comment sortir de ce piège enchanté? Le toit est enlevé, la muraille est à pic. Il était si facile de se laisser glisser sur l'humide mosaïque, mais comment remonter? À la porte veillent les esclaves. Et à la porte, si l'on nous voit, nous entendons des cris féroces, nous aurons désobéi au général. Nous exciterons une révolte dans la ville soumise à peine. Le musulman jaloux invoque Allah. Ces femmes sont perdues et nous serons fusillés sur l'heure. Voilà ce que nous disions entre nous. Mais en vrai soldat, sinon sans reproche, du moins sans peur. Albert, qui était déjà caporal, tirant de sa poche la proclamation du général, se mit à lire solennellement de la proclamation militaire les passages qui pouvaient nous concerner. Soldats. Les peuples chez lesquels nous allons entrer traitent les femmes différemment que nous. Mais dans tous les pays, celui qui outrage une femme, c'est un monstre. Article 1er. Tout individu de l'armée qui aura outragé une femme sera fusillé. signé Bonaparte, membre de l'Institut national. « Bon, nous sommes perdus, » disait le caporal Albert. « Mais nous sommes perdus, ma chère Margot, même si ces dames nous pardonnent nos outrages. » Parlant ainsi, Albert embrassait une grosse géorgienne aux yeux noirs. Ruffo, qui était corse et fanfaron, « Bon, dit-il, le général est mon cousin, il ne voudra pas nous chagriner pour si peu. » Tous les Corses voulaient être les cousins de Bonaparte. Eugène, qui était des bords du Rhône, Eugène, qui avait été clerc de procureur dans l'étude de sa mère, en ce temps-là, les gens de Loire étaient rares, rassurait Philippe, qui tremblait de tous ses membres. « Lis cette loi avec soin, Philippe, interprète-la. Ne t'attache pas à la lettre, et tu seras sauvé. » Sera fusillé celui qui aura outragé une femme. Or, nous n'avons outragé personne ici, mesdames. » Et les pauvres femmes avaient l'air de répondre, « Oh, Dieu du ciel, vous ne nous avez pas outragés. Monsieur Albert, vous non plus, monsieur Ruffo, ni vous, monsieur Philippe, ni vous, monsieur Eugène. Quant à moi, j'avais peine à me dégager d'une pauvre jeune fille qui me tenait embrassée de ses deux bras. Je ne l'ai pas outragée, n'est-ce pas, Elvire ? » Dans ce temps-là, il y avait à Paris beaucoup de femmes qui s'appelaient Elvire en honneur d'Ossian, le poète favori du général en chef. Je ne sais pas quel nom elle porte aujourd'hui. Et puis nous avons toujours Ruffo, le cousin germain du général, qui nous empêchera d'être fusillés, mon bon Philippe. Philippe tremblait toujours de tous ses membres, malgré la sage interprétation de la loi. La position devenait critique et nous étions perdus, en effet. Si l'une de ces dames, la grosse et bonne géorgienne, ne se fût avisée d'un stratagème auquel nous n'aurions pas pensé. Au moment où la pâleur commençait à envahir tous les visages, la géorgienne se plaça sans mot dire contre la muraille, justement sous l'ouverture du plafond par laquelle nous étions descendus, et ce fut la base solide sur laquelle nous improvisâmes l'escalier libérateur. Marion au bas du mur, Louise grimpa sur Marion, Fanchette sur Louise, Victoire sur Fanchette, comme elle était la plus grêle et la plus légère, la pauvre fille qui m'embrassait grimpa sur Victoire. Elle fut le dernier échelon de cette échelle animée, échevelée et pleurante, qui devait nous rendre la liberté. Philippe grimpa le premier sur cette échelle, et, tremblant qu'il était, il meurtrit plus d'une blanche épaule. Il égratigna plus d'un visage. Il ne dit adieu à personne. Il se voyait fusillé le lendemain. Ruffo, plus sage, eut grand soin de ne pas laisser flotter son sabre, mais comme il avait sa chaussure entre les dents, il n'eut pas un seul baiser à donner à cette échelle vivante qui tremblait sous son poids. Restés tous les trois dans le bain, Eugène, Albert et moi, nous oubliâmes toute discipline, et ce fut à qui de nous montrait le dernier. « À toi, Eugène !» disait Albert. Eugène ne voulait pas monter. « À toi, Albert !» Albert montait les premières marches. Il arriva ainsi au troisième échelon. Il l'embrassait avec l'ardeur d'un capitaine de la garde, puis, folâtre enfant qu'il était, il se laissait doucement glisser jusqu'à terre pour recommencer son escalade. « Par Mahomet, disait Albert, je reste ici, moi j'y suis bien. Je veux être fusillé. Allez, vous autres, fuyez et laissez-moi. » Eugène se suspendit à ces belles femmes rieuses et pleines de grâce, et une fois sur le toit, il voulut redescendre. Et tout à coup, plus d'escalier. L'escalier était à bas, qui dansait en pleurant. Et nous voilà, narguant Eugène, le parvenu. Lui, cependant, Viens donc, Albert, viens donc, Georges, venez, je vais redescendre. Et nous de danser la farandole, narguant de gêne. Il n'y aura plus à boire, les lauriers sont coupés. À la fin, je dis à maître Albert, Albert, il faut sortir d'ici absolument. Et qui de nous sortira le dernier? Allez, va d'abord, tu me donneras la main. Sois bon enfant, je t'ai donné une bonne place au premier rang, si bien que tu as manqué d'être tué à mes côtés, et tu dois t'en souvenir. Albert, touché de mon discours, m'embrassa comme s'il eût embrassé la Géorgienne. L'escalier se forma de nouveau, on choisit les femmes les plus fortes. J'ai toujours été d'un embonpoint si ridicule. Je ne sais comment cela se fit, mais ma jolie Beaune était encore assise au sommet de l'échelle. Elle me regardait d'un air pénétré. Je fus fidèle à ma parole et je montai tout de suite après Albert. Je me faisais léger et petit, de mon mieux. Je montais lentement. Je sentis plus d'une poitrine haletante, j'entendis plus d'une voix qui me disait adieu dans cette langue inconnue qui vient du ciel. J'atteignis enfin au sommet. Albert et Eugène me saisirent de leurs bras nerveux et m'attirèrent à eux. Hélas, hélas, à cet instant même où j'étais exaucé, fus un des plus violents chagrins de ma vie. À ces mots, le général déposa sa pipe. Il avait du chagrin plein le cœur. Figure-toi, Théodore, que la jolie brune, cette petite fille de 16 ans, le dernier échelon dont je t'ai parlé, s'attachait à moi avec tant de force qu'elle vint avec moi sur la plateforme. Et une fois sur la plateforme, elle se jette à mes pieds, les mains jointes, sans vêtements, priant, s'arrachant les cheveux, et parlant d'une voix si douce et si plaintive que je la comprenais comme si j'avais le don des langues. Elle se tordait, elle criait, elle se leva, elle m'embrassa, elle me disait en arabe « Ne me laissez pas ici toute seule, emmène-moi, je serai ton esclave, je serai ta femme. » Eugène, Albert et moi, voyant cette douleur, cette beauté, ces cheveux épars, ce sein nu, cette pauvre femme hospitalière et si bonne, oh, tout cela, l'âme et sa belle enveloppe, qu'il fallait abandonner sans retour. Oh, nous fûmes prêts de pleurer, comme elle pleurait. Ce fut une douleur suprême. À mon tour, j'étais à ses pieds. Je l'embrassai avec délire, je lui dis adieu avec des larmes. Eugène, Albert, la rendirent doucement à ses compagnes. Puis tout à coup, pour la ranimer, voilà toutes ces femmes qui frappent dans leurs mains et remplissent l'air de leurs cris. La porte fut ouverte avec fracas, les esclaves accoururent, les femmes se voilèrent, et de leurs mains brûlantes, elles montrèrent ce toit entr'ouvert et ces chrétiens qui s'enfuyaient. Les époux de ces femmes remercièrent Allah dans leurs prières du danger dont il les avait préservés. Le tout fut réparé le lendemain avec du fer. Quant à nous, moi pleurant, eux riant, tous les cinq épanouis, frais comme des roses, reposés comme un sultan, couverts d'essence, chargés d'amulettes, d'anneaux d'or et de chapelets d'ambre, nous rentrâmes au camp à la faveur de la première confusion. Nous fûmes salués à notre entrée, et comme cela a été dû à des gens de l'avant-garde, qui s'étaient battus les premiers, et qui étaient signalés nominativement dans l'ordre du jour. Seulement les camarades trouvèrent que nous portions avec nous une odeur insupportable, l'essence de rose étant peu connue alors et peu en usage dans le camp. Le lendemain, nous étions nommés sous-officiers tous les quatre. Albert était officier tout à fait. Un mois après, j'avais la peste à Jaffa. Le général achevait son récit quand il sentit quelque chose qui touchait légèrement son épaule. Il se retourna vivement et le visage couvert de rougeur. C'était son lévrier favori qui, en un accès de tendresse, lui disait bonsoir. « Oh, tu m'as fait une horrible peur, Vulcain, » dit le général. « J'ai cru que c'était ma fille qui nous écoutait. Quelle honte c'était pour moi !» Je me levai. « Bonsoir, général. » Il me prit la main. « Bonsoir, mon enfant. » Je sortais, il me rappela. « Fais-moi le plaisir de couper ta barbe et tes moustaches. Fais-moi le plaisir de ne plus mettre de gants jaunes et de ne plus porter de l'ordure, veux-tu ? Nous avions de bonnes moustaches, nous autres, dans l'armée. Des mains si nerveuses, une barbe si noire et de si bons yeux, que toutes vos moustaches et vos gants jaunes et votre barbe et vos lorgnons et vos bains vigiés me font pitié. »